Écoutez, je reçois des informations maintenant, écoutez.
Le feuilleton va recommencer pour quelques épisodes, capitaine.
Nous ne sommes pas des robots, Sébastien, mais des êtres vivants.
Voilà le pied d'Armstrong. Au centre et en bas de votre écran. Et il marche maintenant.
On peut dire aujourd'hui que la science-fiction est bel et bien partout.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique?
Est-ce vraiment si invraisemblable?
Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
1, 2, 3, bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez C'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par l'œil de Chéri. Ça y est, nous sommes rentrés du Japon. J'ai eu la chance de pouvoir faire le tour du pays du soleil levant pendant 3 semaines. J'ai pu voir les cerisiers en fleurs et ce voyage m'a donné pas mal d'idées éditoriales pour le podcast et d'autres projets. Bref, c'est une affaire à suivre, mais vous serez au courant comme à chaque fois. Aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler de science-fiction, quoique avec lui, on peut s'attendre à tout. Il était déjà venu dans le podcast pour nous parler de Dernier Atlas. Il revient depuis quelques semaines avec une bande dessinée chez Dargo. Cela s'appelle Le Dieu Fauve. C'est un récit complet qui a la particularité d'être très littéraire. On adore discuter avec lui car il est très intelligent et surtout truculent. Fabien Velman, bonjour et bienvenue à la maison.
Bonjour, merci de cette présentation.
Vous venez de scénariser Le Dieu Fauve, un long récit de 110 pages, dessiné et colorisé par Roger. Pour rappel, Roger avait dessiné la série culte Jazz Ménard, également disponible chez Dargo. Fabien, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur la naissance de ce nouveau projet qu'on a évidemment apprécié et aimé, et c'est pour ça que vous êtes ici? On retrouve la touche un peu Fabien Velman, des albums bien écrits et surtout des idées originales à chaque fois. Comment est né ce projet qui est en plus une couverture assez intéressante?
Alors c'est un vieux projet dans le sens où ça fait très longtemps qu'avec Roger, qui est signé aussi Roger Ibanez hein, pour ceux qui le chercheraient sur internet, on avait très envie de bosser ensemble. Moi, je suis un énorme fan de son travail, de ses ancrages en particulier. C'est extrêmement péchu. Il a un sens de l'action qui est assez rare en bande dessinée. Donc, l'envie de faire quelque chose était là depuis longtemps, au moins une dizaine d'années. Mais, vous le disiez, j'aime bien qu'il y ait des idées fortes. Et pour une idée forte, il faut parfois patienter, chercher, en abandonner beaucoup. Et un premier projet que j'avais proposé à Roger n'avait pas abouti, donc on s'est resté un peu dans les limbes jusqu'à ce que me revienne une envie assez ancienne aussi, qui est celle de faire de l'heroic fantasy. Donc effectivement, il y a débat hein, pour savoir est-ce que ça s'inscrit ou pas dans le genre de l'ASF. Moi, je m'en fiche du moment qu'il y a du genre et du moment que ça me permet d'aller dans des directions que je connais pas. Or, j'avais un rapport très paradoxal à l'heroic fantasy, à savoir que j'ai baigné dedans quand j'étais petit. J'ai vraiment été un énorme fan, je pense en particulier de Conan le Cimérien, de Howard, qui est mieux écrit qu'on pourrait le croire quand on pense généralement à ce type de littérature. Bon, très connu pour avoir été adapté au cinéma dans un film qui n'est pas mauvais d'ailleurs, mais qui n'était pas exactement l'idée que je me faisais du personnage, comme souvent les adaptations. J'étais un grand fan aussi de La Quête de l'Oiseau du Temps, bande dessinée de Loisel et Le Temps, bien entendu. Mais s'en est suivi dans l'édition franco-belge une palanquée de sorties, dont certaines très drôles, très parodiques. Je pense à L'Enfeuse de Troie, qui surfe sur la parodie, mais qui est aussi un peu plus sérieux, qui est très réussi. Mais il y avait aussi plein de mauvaises BD d'Heroic Fantasy. Et du coup, de là, j'ai commencé à avoir peur du kitsch. Puis en me disant surtout, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on lit quand on est ado, mais qu'on abandonne après? Et en même temps, ce côté très adolescent de l'Heroic Fantasy est précisément ce qui m'a intéressé là-dedans. C'est-à-dire c'est un genre qui vient chercher des choses très viscérales, des envies de violence, un peu des envies sans doute un peu nihilistes, même si je n'ai pas envie de me considérer du tout comme nihiliste, mais une forme de pessimisme à certains égards. Le déclencheur de la réunion entre cet univers et Roger a été son Instagram, où j'ai vu une illustration avec un crocodile géant. Et je me suis dit, ah tiens, il est capable de faire ça, et s'il acceptait? Donc ça l'a complètement pris au dépourvu, mais il a vu le défi là-dedans. Et surtout, j'ai commencé à lui raconter le début d'histoire. Alors ce début d'histoire n'était pas encore si net à l'époque, si ce n'est que je voulais qu'on suive un singe, et le fait est qu'en grande partie dans ce récit, c'est le récit d'un singe qui s'appelle Sans Voix. Et je voulais aussi m'intéresser à une période passé, qu'on appelle généralement antédiluvienne pour dire avant le déluge, mais dans le cas précis de ce récit, c'est très exactement juste avant le déluge, c'est-à-dire qu'on y assiste. et qui est un événement mythologique qu'on retrouve dans pas mal de grandes histoires, comme dans la Bible, mais dans d'autres civilisations, qui laissent entendre qu'il y a eu effectivement un déluge, il y a de ça peut-être 40 000, 50 000 ans. Et ce qui m'intéressait dans ce thème du déluge, c'est l'idée d'une civilisation qui est confrontée à sa fin, et de l'impossibilité pour cette civilisation d'imaginer cette fin. Et ça, c'était la partie la plus contemporaine de cette histoire, ce qui me permet d'en parler maintenant avec mes tripes, et non pas de me dire, tiens, on parlerait d'un vieux truc qui s'est passé il y a très longtemps, juste parce que j'ai envie de faire mon Conan. Donc en fait, souvent, voilà, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai une envie de faire une BD, c'est cette conjonction de choses, pour à peu près tous mes projets, donc des idées, des envies, un univers, une thématique qui soit la plus profonde possible, et la rencontre avec un dessinateur. Et je précise, avec un dessinateur, de plus en plus, je fais attention à ça, capable de transporter une émotion. Parce que je connais mes limites, et mes limites, c'est d'être très intellectuel en particulier, d'être parfois trop au service des idées et moins au service des émotions. Or, je sais, par ma raison, que l'émotion doit primer, mais dans les faits, des fois, je suis emporté par mon écriture. Et de plus en plus, je m'en remets à mes dessinateurs, illustrateurs et illustratrices, pour justement venir compenser cette espèce de côté surintellectuel et incarner les choses. Et dans le cas de Roger, dans le cas du Dieu Fauve, c'est un élément primordial.
King Kong, la planète des singes, 2001, on sait de l'espace, avouez qu'il y a quand même une petite inspiration SF dans votre projet, Fabien Velman.
Bah oui, si on inclut King Kong dans la SF, complètement. Je revendique totalement, même si ça a été presque inconscient pendant l'écriture, mais cette espèce d'ombre portée de King Kong qui a été, je pense en plus au film des années 30, hein, le premier en noir et blanc, qui a été un de ces chocs esthétiques qui a marqué mon enfance, comme le Frankenstein aussi par exemple, en noir et blanc, qui étaient des diamants incroyables qui à mon avis se laissent revoir, même si bah, forcément ils ont vieilli, mais il y a une poésie incroyable. Et dans le King Kong, ce qui m'avait frappé quand je l'avais vu enfant, c'était que toute mon empathie allait vers le supposé monstre. Que les autres personnages, en fait, on s'en fiche complètement. D'ailleurs, quand ils sont écrasés par le singe, on est presque réjouis. Il y a quelque chose de cette démonstration de violence, de puissance, de force, et en même temps de désespoir dans ce monstre qu'on pourrait qualifier de personnage, en fait, personnage principal de King Kong, qui m'a énormément touché. Et c'est vrai qu'à certains égards, c'est avec le recul, je me suis rendu compte que le Dieu Fauve, avec une construction, par contre, narrative plus compliquée, on va peut-être y revenir, s'avère être un récit autour d'une figure animale qui est considérée comme un monstre.
Sur le podcast, on doit toujours pitcher son projet. Alors, ça parle de quoi, le Dieu Fauve? Mais je sais que vous connaissez l'exercice du pitch.
Je le connais, mais alors je ne le maîtrise pas toujours aussi bien que ça devant les commerciaux des maisons d'édition, surtout quand le projet est complexe. Mais dans le cas du Dieu Fauve, je pourrais dire d'abord que c'est... dans une société ancienne, un singe a été capturé, retiré de son clan, clan qui a été massacré. Il est dressé à devenir une arme, une sorte d'arme divine qu'on appelle le Dieu Fauve, qui va combattre dans des arènes pour des grandes cérémonies. Or, cette civilisation qui l'a capturée va être frappée de plein fouet par ce déluge. Le Dieu Fauve parvient à s'enfuir et va commencer à exercer sa vengeance sur les quelques survivants de la caravane dans laquelle il était. Donc en fait, ça commence par un récit très proche de Conan, à savoir un personnage dont le clan est décimé et qui va vouloir se venger. Mais la petite spécificité du Dieu Fauve, c'est que le récit est choral, et qu'une fois passé l'entrée en matière avec sans voix, le singe, on va ensuite changer de point de vue au fur et à mesure des chapitres, jusqu'à, in fine, retrouver le point de vue de sans voix à la fin du récit, ce qui prouve bien que c'est lui le fil rouge de cette histoire.
Votre récit est majoritairement raconté par les voix intérieures des personnages, il y a assez peu de dialogue. Pourquoi ce choix narratif? Car quand il est mal utilisé, ça peut être casse-gueule, il peut y avoir une vilaine tendance à un peu alourdir la narration. Comment vous avez joué avec cette voix off, finalement?
Alors c'est vrai que je suis d'accord, hein, c'est casse-gueule. Ici, ça s'est imposé à moi dès le début parce que je voulais qu'on soit au niveau de sans voix, de ce singe, et en même temps, comment j'avais pas envie de le faire parler, je voulais pas l'humaniser. Même au niveau du graphisme, hein, quand Roger avait fait quelques premiers essais, ils étaient presque trop à la Disney, parce qu'ils voulaient qu'on voit les émotions des personnages, et je lui disais, attention, on va commencer comme un documentaire animalier, donc l'animal reste un animal, mais on va lui attribuer des émotions, des pensées, comme le font les commentateurs de films animaliers. Donc pour 100 voix, j'avais cette obligation, entre guillemets, d'avoir une voix off, dont on ne sait qui d'ailleurs parle, à part éventuellement un narrateur omniscient. Et puis dans la foulée, quelque part presque de manière logique, et étant donné aussi le fait que je voulais rentrer dans un univers qui est assez complexe, la voix off me permettait de rentrer très rapidement dans la tête des personnages. Alors de là à dire que c'est parfaitement maîtrisé de bout en bout, j'irai peut-être pas jusque là, même à titre personnel, dans le sens où je crois que même si j'ai fait le plus d'efforts possible pour que ce soit le plus fluide possible, on n'échappe pas complètement, en particulier au début du chapitre 2 où on rentre dans un univers qui est celui des humains. On n'échappe pas à une forme d'emphase qui est celle de la narration d'une voix off qui décrit un grand univers. Heureusement, mon éditrice, que je salue au passage, Rayoun, qui travaille chez Dargo, a taillé dans le gras, donc c'est devenu mieux que ça n'eût été. Mais je sais que, voilà, je peux avoir le recul de ce que j'ai écrit. Je pense qu'une fois qu'on rentre dans ce chapitre 2, il y a un petit moment comme ça, chaud-froid, qui n'est pas évident, parce que de fait, il y a ce côté très, parfois très envahissant d'une voix off, que peut avoir une voix off. Et puis petit à petit, c'est ce que m'en disent en tout cas les lecteurs, ça se refluidifie parce qu'on commence à comprendre la complexité mais aussi la construction excitante narrative. On commence à comprendre le principe des voix off, les changements de personnages. Et c'est comme si une fois passé ce petit moment d'adaptation, on trouvait le rythme. Et pour moi, le récit s'accélère de plus en plus jusqu'à l'épilogue qui constitue à certains égards le point d'orgue, à mon sens, vraiment de l'album. Donc dire que j'ai complètement réussi tout le temps, non. Il faut aimer une forme de lyrisme pour aimer le dieu fauve. Il y a quelque chose de... Une critique en parlait comme une sorte d'opéra, avec ce que ça peut comporter de peut-être de too much, un opéra. Mais c'est assez vrai. C'est assez vrai dans le sens où j'ai vu vraiment le dieu fauve en mode épique. C'est ce que permet l'heroic fantasy. En assumant ce côté très théâtralisé, très voilà, comme un opéra. J'avais en tête, toute proportion gardée, Shakespeare, sans me comparer bien entendu à son génie, mais pour ce côté condensé que peuvent avoir ces pièces, quand d'un coup on se dit « Ouh là là, les méchants sont incroyablement méchants, mais on comprend leur motivation, il y a du sang, il y a de la tragédie ». Il y a vraiment tout ça dans le dieu fauve, donc il faut aimer ce genre de choses. C'est-à-dire que pour moi, comme n'importe quelle bande dessinée, c'est pas destiné à plaire à tout le monde, c'est destiné à essayer de choper les lecteurs et les lectrices en les emmenant dans une direction. Et c'est super intéressant actuellement, comme je commence un peu une tournée de dédicaces, de voir les réactions des lecteurs, lectrices, dans quoi ils sont rentrés, qu'est-ce qui les a laissés perplexes, et de voir que quand même, bon an mal an, ça a l'air d'emporter le morceau pour une majorité d'entre eux.
Le Dieu fauve, moi j'ai trouvé ça très bien écrit, il y a du texte, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est plutôt dans une tendance où le texte se fait de plus en plus rare dans les romans graphiques. Comment vous analysez cette tendance à réduire un peu les cases, enfin plutôt à réduire un peu les bulles, et que finalement l'arrivée du roman graphique qui a donc, on va dire, changé totalement une façon de narrer une BD, puisqu'avant on était sur du 54 pages globalement,
oui, tout à fait.
Et que maintenant on est face à des récits qui font 100, 150, voire 200 pages pour les plus gros. Comment vous analysez le fait qu'on est face aussi à un lectorat qui peut-être veut moins lire, entre guillemets, qu'avant?
C'est compliqué, c'est sans doute polyfactoriel, mais j'y vois plusieurs choses. Je pense qu'il y a un goût accentué pour le pur dessin, mais qui est aussi un goût d'illustrateur, de dessinateur, et que je comprends parfaitement, comme le théorisait très bien Scott McCloud quand il a écrit L'Art Invisible, donc ce grand exégète de la bande dessinée. Je conseille à toute personne qui veut faire de la BD ou qui aime la BD de lire L'Art Invisible, c'est un chef-d'œuvre. Il évoque très bien cette tension dans le cas de binômes pour faire des BD, je parle pas des auteurs complets mais des binômes, entre le scénariste et le dessinateur, en disant le scénariste tend vers la littérature, qu'il le veuille ou non, et il est souvent très verbeux, ce qui est mon cas, et le dessinateur tend vers la peinture, l'art pictural, et va plutôt être vers quelque chose de très muet. Et cette tension, quand elle est réussie, qu'elle est fructueuse, elle permet des contrepoints entre l'image et le texte. Quand elle est ratée, ça donne certains mauvais Black et Mortimer. C'est pas le cas de tous les albums de Black et Mortimer. C'est la caricature qu'on en fait, à savoir le narratif qui dit « Et alors, Black entre dans la pièce et fume sa pipe. » Et en dessous, on voit un dessin de Black qui rentre dans la pièce et qui fume sa pipe. Dieu soit loué, on n'en est pas là. Et donc maintenant, il y a eu une vraie envie de laisser de la place à une émotion visuelle que permet la bande dessinée ou le roman graphique. Moi, je comprends parfaitement cette tendance. Je suis plutôt un gros fan en tant qu'amateur de dessin. Par contre, en tant qu'amateur d'histoire, je peux y voir quelques problèmes. Il y en a un, il est économique, c'est que pour raconter quelque chose avec moins de texte, parce que le texte, on dit ce qu'on veut, rajouter un petit, par exemple, un petit narratif qui dirait « et pendant ce temps », que moi, j'aime pas mettre. Mais c'est vrai que c'est très pratique, parce qu'on n'a pas à expliquer Ou alors, au lieu de dire... Si je veux faire passer, par exemple, une ellipse, et que je dis « c'est cool, ensuite, une année », je le dis en une phrase. Si je veux le montrer sans cette phrase, qui est effectivement pas très belle, dans La cuisine des ogres, j'ai fait, par exemple, trois cases qui alternent les unes après les autres, où on voit un passage de saison. Bon, bah, j'ai pris trois cases. Trois cases, c'est une certaine place. Un petit narratif qui dit un an après, ça prend quelques centimètres. Donc, c'est que des questions d'économie de moyens. Donc, l'élégance ne va pas tellement vers le narratif qui dit « et pendant ce temps » ou « un an plus tard ». Mais l'économie de moyens fait qu'on gagne du temps et que l'air de rien, un album de BD, ça entre dans une économie. 110 pages, ça coûte plus cher que 54. 200 pages en mode manga, pourquoi pas, mais alors c'est du noir et blanc, c'est pas non plus le même projet. Ou il a été rentabilisé à l'étranger avant d'être publié en France, donc tout ça c'est une économie. Ok, je veux dire, c'est pas sale, hein. L'économie n'est pas sale, enfin ça dépend comment elle est utilisée, mais moi j'aime bien aussi ces contraintes. Le strip, par exemple, a été inventé aux États-Unis parce qu'il y avait de la place sous des pubs, et ok, bah, on fait un truc qui s'appelle le strip, et c'est une narration en trois cases. Donc c'est comme le numérique. Chaque nouvel outil, chaque nouvelle économie apporte ses modes de narration, aucun problème avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on en tire ? Et le risque pour moi de laisser beaucoup de place au visuel sans texte, c'est une rapidité de lecture qui est décuplée. Parce que l'œil d'un lecteur ou d'une lectrice est fait de telle manière, enfin je m'inclus là-dedans, mais pour la plupart des gens, que si on ouvre une double page sans dialogue, on la survole en un quart de seconde, on la passe. Parce qu'on est quand même en train de lire une histoire. On ne lit pas un catalogue de belles illustrations. Éventuellement, en relisant, peut-être qu'on va s'arrêter sur les illustrations. Pourquoi pas ? Mais je dirais que le premier réflexe de 80% des gens qui lisent une BD sans texte, c'est de la lire beaucoup plus vite. Or, moi, j'ai aussi envie qu'un lecteur, une lectrice, ait une expérience de lecture un peu longue. Parce qu'ils vont payer un certain prix. Et que on le voit dans les réactions en librairie. Il y a des gens qui disent « c'était un peu cher pour le temps de lecture, pour telle et telle BD ». Donc un artiste avec un grand A va dire « oh là là, vous me jugez à l'aune du temps de lecture ». Bon, on peut comprendre. Mais en même temps, je comprends aussi le lecteur qui dit « attends, j'ai payé 20 balles. Pour 10 balles au cinéma, j'ai 2 heures. Là, pour 20 balles, j'ai peut-être des fois... 45 minutes de lecture, ben oui, on pense aussi comme ça, parce qu'une fois de plus, on n'est pas dans un monde de oui-oui, on est dans un monde où on a de l'argent, on ne peut pas le mettre partout. Donc moi, je suis un peu dans cette double pensée. J'adore les grandes images, j'adore offrir aux lecteurs ces moments de pur kiff visuel, et je travaille avec des gens qui sont des artistes incroyables pour ça.
Les fameux money shots.
Voilà, vraiment, exactement.
Ces fameuses planches qui vont faire peu, souvent, c'est des illustrations pleines pages, et on est dans du money shot, et donc y a quand même un effet un peu waouh encore sur ça.
Exactement, et que maîtrise très très bien plein de mangas, plein de comics, plein de BD franco-belges, que j'ai parfois du mal à faire parce que l'envie d'écrire l'histoire et de la faire avancer, de la rendre complexe, parce que j'aime bien les histoires complexes, j'aime bien les histoires où il y a une profondeur. Après, un grand maître, pour moi, serait capable, ce que je ne m'estime pas être, serait capable de raconter quelque chose de très 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 profond avec une économie de moyens en termes littéraires. Je tends vers ça, un peu comme les grands maîtres zen qui, après avoir regardé la montagne pendant 6 heures, font 3 traits et la montagne est là. Ok, j'adorerais être comme ça. En l'état, on voit bien que mon caractère va plutôt vers une longue logorée qui va décrire la montagne, qui va éventuellement être chouette. Et donc, j'essaie de trouver l'équilibre. C'est-à-dire que là, par exemple, dans Le Lieu Fauve, il y a quelques money shots, non seulement pour laisser vivre le dessin de Roger, aussi pour rendre un hommage appuyé à l'heroic fantasy. Je pense à quelques images, dont une est quand même assez iconique, où on voit un personnage qui est une guerrière en train de massacrer des guerriers, des combattants en face d'elle. Donc c'est clairement un clin d'œil à Frazetta, le grand illustrateur américain qui a, entre autres, illustré des romans de Howard. On a en tête tous, plus ou moins dans l'imaginaire collectif, ce barbare en train de massacrer ses ennemis en haut d'une sorte de structure pyramidale qui sont des corps d'ennemis et des cadavres. Donc, on a répondu à ça, parce que j'estime qu'un récit d'heroic fantasy doit répondre à des sortes d'attentes, des passages obligés, mais en leur faisant faire un petit détour, un petit pas de côté. Dans le cas présent, déjà, ça n'est pas un guerrier, c'est une guerrière qui est en train de tuer des hommes, donc ça crée un petit différentiel étonnant, surtout pour un lecteur homme qui éventuellement va se dire « what the fuck ?». Et ensuite, il y a les fameux narratifs que j'apporte qui nous permettent de savoir à quoi elle pense. Et là, en fait, elle pense qu'elle s'ennuie, qu'en fait, elle en veut à ses victimes de résister parce qu'elle est en train de perdre du temps. Et c'est un autre petit décalage qui permet de se dire « ah oui, voilà l'intérêt du narratif pour moi et l'aspect littéraire de la bande dessinée ». c'est qu'on peut bénéficier du meilleur des deux mondes, à savoir le visuel. Moi, je suis un énorme fan de l'image. Je suis né dans un monde d'images. Mais quand même aussi une capacité réflexive qu'apporte la littérature, que parfois certains films arrivent à toucher du doigt. Mais la bande dessinée le fait de manière totale, assumée. On peut mettre un texte littéraire dans une BD. Ça passe ou ça casse, mais ça ne choque pas le lecteur. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait mettre dans un dialogue quelque chose d'extrêmement littéraire, là où dans un film, ça ne passera pas. Si c'est trop littéraire, on se dira ça ne sonne pas comme la réalité. En BD, on sait que ça n'est pas la réalité.
Est-ce que, dans le fond, Fabien Wellman, vous ne souhaitez pas être un écrivain ?
Eh bien non, justement. C'est pour ça d'ailleurs que je lutte contre mon emphase et mon côté verbeux. C'est que je trouve ça tellement mieux... pour deux raisons, d'aller vers la bande dessinée. Il y en a une, c'est que j'adore l'image et que ça oblige en plus à une collaboration avec quelqu'un. Si je faisais un roman, alors oui, je serais tout seul, je serais le démiurge de mon petit univers, mais je ne suis pas certain que ce serait génial d'être tout seul dans ma tête. Je crois que ça serait un peu flippant. Je ne dis pas peut-être faire une expérience un jour avec un type d'écriture, mais à la limite, ce que j'ai écrit de plus littéraire avec l'emphase, là encore, que j'y accole, hein, c'est Le Dieu Fauve. Mais il ne faudrait pas que j'aille plus loin là-dedans. Je pense que ça ne marche que parce que les dessins de Roger y apportent justement ce qu'il faut de chair, d'incarnation, d'émotion pour alléger cette façon d'écrire. C'est ce qui fait qu'au demeurant, j'ai assez peu utilisé les voix off dans mes BD. Je pense qu'à Paco Les Mains Rouges avec Eric Sago chez Dargo aussi. Peut-être ça et là dans des nouvelles, parce que c'est très pratique, là encore, dans Green Manor, chez Dupuis, avec Denis Baudard, ou Les Lendemains sans nuages, avec Gazzotti et Meyer. Mais c'est vrai que tout de suite, on flirte avec une forme de littérature, et une fois de plus, le risque, et là je repense à, j'ai une espèce de statut du commandeur, c'est mon grand-père, qui avait commencé à essayer de s'intéresser à mon métier avant sa mort, et qui avait dit, j'ai compris, c'est de la sous-littérature, puisqu'on explique les choses avec des images. Et il y a une partie de moi qui a toujours un peu peur de ça, et qui dit, non, essayons de trouver le meilleur du meilleur, à savoir... Cette alchimie incroyable quand c'est réussi, entre une image, qu'est-ce qu'elle évoque émotionnellement pour nous et quel contrepoint les quelques mots qui l'accompagnent vont apporter et de quelle manière ces mots vont féconder l'image. Alors ça, quand on y arrive, c'est incroyable. Quand on n'y arrive pas, on recommence.
Vous avez fait le choix de raconter le destin de quatre personnages dans quatre chapitres qui racontent un aspect de l'intrigue. Comment est né ce choix narratif qui est finalement assez utile puisqu'à chaque fois, vous faites une coupure et puis vous passez à un autre aspect de ce lore, de cet univers. Mais en même temps, il y a quelque chose d'assez original, parce que vous ne travaillez pas forcément comme ça. Moi, je connais un peu vos BD.
Oui, oui.
Vous faites peu ça.
Non, c'était la première fois. En fait, j'aime bien quand un mode narratif s'impose à moi, parce que déjà, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécifique dans ce que je veux raconter, que je déteste m'ennuyer, que j'ai toujours hyper peur d'ennuyer les lecteurs. Je pars du principe qu'ils ont plein d'autres choses à faire et que donc la moindre des politesses, c'est d'essayer de les saisir avec quelque chose de surprenant. Donc là, en fait, ça s'est imposé à moi en cours de route. C'est un peu difficile pour moi de savoir très exactement quand est-ce que je me suis dit c'est le moment. Mais je pense que c'est venu d'abord d'une envie d'inverser des points de vue en me disant j'aimerais bien d'un côté qu'on voit un animal dans tout ce que nous, on peut y projeter d'une forme d'humanité, assez paradoxalement, parce que cette question de l'émotion animale me parle et me hante assez, surtout à notre époque, où elle a tendance à être à la fois de plus en plus reconnue et à la fois complètement niée dans les faits, quand on voit la manière dont, par exemple, les animaux sont abattus pour être consommés, c'est abominable. Donc j'avais envie qu'on ait cette empathie pour ce personnage, et en même temps, j'adorais l'idée, d'un point de vue de survival, à savoir, on est du côté de ses victimes. C'est-à-dire que c'est maintenant que j'y pense, ce qui est assez étrange, c'est que Le Dieu Fauve, c'est comme si on assistait à la genèse d'Alien et ensuite on se met du côté des victimes d'Alien. C'est-à-dire qu'on est poursuivi par ce truc horrible. Sauf que nous, on sait, en tant que lecteur, ça aurait pu être un autre parti pris de ne pas savoir quelle est cette menace et de simplement se dire qu'est-ce qui va tuer ces gens. Mais là, on sait que c'est cet animal dont on a suivi la souffrance au début. Donc ça crée un... En fait, je crois que j'aime bien cette idée, là encore, de créer des chauds-froids, des sucrés-salés, des mélanges. Donc, il y avait ça. Et à partir du moment où j'avais point de vue de l'animal, puis on change et on passe du point de vue des humains, ça a dû ouvrir une boîte de Pandore chez moi. Je me suis dit, pourquoi pas d'autres humains? Et ce qui a complété cette réflexion, je pense, et ce qui a fait que j'ai eu envie de le faire, c'est qu'entre-temps, je m'étais vraiment dit qu'un des points fantastiques de la littérature, au sens très large du terme, de la narration, c'est de pouvoir se mettre à la place des autres. Et ici... j'avais envie de pouvoir partager plein de points de vue les plus contradictoires possibles, les plus antagonistes possibles, Ce d'autant plus que, et ça c'est mon côté intellectuel, je voulais aborder le sujet de la violence. C'est vraiment le sujet fondamental de cet album. C'est les formes de violence. Quand est-ce qu'elles seront amorales, comme la violence animale? Quand est-ce qu'elles seront justifiées par un sens politique soi-disant? Quand est-ce qu'elles sont perverses? Quand est-ce qu'elles sont dans un mode de survie? Quand est-ce qu'elles sont cathartiques, comme un combat dans une arène? On en pense ce qu'on veut, il y a quelque chose de l'ordre d'une catharsis de la violence qui est très très ancienne et qui maintenant crée un autre type de violence qui est celle des réactions à la souffrance animale. Mais on voit bien tout ce qui se passe autour des corridas, ce qui est dit autour des corridas encore maintenant. Donc on voit quelque chose se passe là qui a fort lié au sacré en fait et donc aussi à la foi à certains égards. Et toutes ces thématiques là, je me disais, ça sera d'autant plus intéressant si je peux les aborder avec quelques personnages. Alors après, je voulais pas me disperser non plus. Au final, il y a quatre personnages principaux, c'est déjà beaucoup. Et je n'ai pu le faire que parce que j'avais une pagination suffisante et que Roger était prêt à me suivre dans ce défi. Parce que 110 pages dans un format qui n'est pas un format de roman graphique, du coup, qui est plutôt un format de BD classique, il a quand même fait vraiment fort, quoi.
Moi, je vois une sorte de pari éditorial avec ce projet. Je m'explique, votre album n'est pas vraiment de la fantasy, il n'y a pas de magie. Ni de la science-fiction, ni encore du polar. Il n'est pas inscrit dans un genre particulier véritablement, il n'est pas vraiment historique non plus. Il est hors genre, hors du cadre. Est-ce que c'est pas plus difficile de sortir un album qui n'appartient pas vraiment à un genre donné dans une époque où, avec 7000 nouveautés par an, il faut arriver à exister très facilement, même sur la couverture, pour le lecteur qui va se dire « Tiens, j'aime la SF, bah tiens, je prends ça ».
Alors oui, sans doute, et c'est là que je tends parfois le bâton pour me faire battre. En fait, moi, j'écris parce que j'ai envie d'écrire. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'impose à moi avec une évidence qui a besoin de naître. C'est tellement fort que des fois, il y a des collaborations avec des gens que j'adore qui n'ont toujours pas eu lieu parce que l'idée n'est pas venue. C'est très étrange. Il y a un moment donné, il y a plein d'auteurs avec qui j'adorerais bosser et l'idée ne s'est pas imposée à moi. Donc quelque chose m'échappe dans ce process, et c'est tant mieux. Mais le problème... éventuellement, c'est que quand il sort, des fois, il est simple à vendre, et ça va donner La cuisine des ogres, une petite fille très résiliente va survivre à des ogres, voilà, c'est dit en une phrase. Et puis, des fois, ça donne Le dernier atlas, où je commence à dire, alors c'est un thriller, mais en même temps, il y a des robots géants, mais c'est une uchronie, bon, la tête des commerciaux en face, les pauvres. Et le dieu fauve qui est un peu entre les deux, qui n'est pas si compliqué dans l'absolu, c'est un singe qui a été dressé pour tuer et qui va se venger. Mais effectivement, une fois que tu as dit ça, le contexte est un peu flou. Moi, je l'emmène jusqu'à une antiquité très ancienne. Mais est-ce que pour autant, c'est codé comme de l'héroïque fantasy classique? Pas complètement. Et en plus, ça ne m'intéresserait pas vraiment. Donc oui, je suis d'accord qu'à la fois, j'aime bien le genre, vraiment. C'est toujours une lettre d'amour au genre quand j'écris. Et à la fois, c'est parfois à la limite d'être reconnaissable. Et ce questionnement, il est très flagrant sur la couverture qu'on a fini par choisir.
Ouais, alors très bonne, justement. Pourquoi ce choix de couverture, alors que le marketeur qui est en moi aurait plutôt choisi le singe qui devient monstrueux?
Alors, parce que de fait, pour ceux qui ne connaissent pas la couverture, on voit le singe au début de l'histoire, juste après sa capture, donc il est dans une cage, il est désespéré. C'est un gros plan sur lui qui est complètement poignant. À vrai dire, on avait commencé par des recherches sur des recherches de marketeux, parce qu'on n'est pas contre le fait de se faire beaucoup d'argent, hein, faut pas croire. donc on était allé vers le singe avec son masque, et parce qu'il porte un masque une fois qu'il devient le dieu fauve, et le masque quelque part montre qu'il a atteint ce statut de divinité incarnée. Et on se retrouvait avec quelque chose où au début on voulait trop en montrer pour essayer de faire comprendre. On disait, ben voilà, est-ce qu'il faut montrer des humains, par exemple? Parce que si on montre qu'un singe, on risque de se dire c'est un truc que sur les singes. Mais si on montre des humains, est-ce qu'on risque pas d'en montrer trop? Est-ce qu'on va aller vers un truc à la Star Wars avec plein de visages qui sont les uns à côté des autres? Ce qui peut fonctionner, mais alors ce qui donne un genre qui, quelque part, est presque trop dans quelque chose de la pop culture, là où le lieu fauve est très littéraire. Donc on risque de vendre quelque chose qui n'est pas ce qu'est le livre, ce qui est un problème. On peut faire une très bonne couve, mais qui trompe les lecteurs, ce qui est, à mon avis, pas un service à leur rendre, ni d'ailleurs à l'éditeur, ni aux auteurs. Donc on a tourné en rond, c'était assez douloureux parce qu'en plus Roger était sur les genoux, il est en train de finir les couleurs dans les temps, ce qui était compliqué. Et à un moment donné, il y a une petite anecdote, c'est qu'on s'est mis d'accord sur une couverture qui était assez belle, hein, d'ailleurs, de ce dieu fauve, plutôt vers les séquences finales. Il est sur la plage, il a son casque avec des plumes, on voit que lui, il a une hache en main parce que c'est quand même un animal qui se bat avec une hache. C'est une très belle image et donc on était tous en train de se dire, bon, pourquoi pas, voilà. On ne peut pas dire qu'il y avait une évidence, mais on se disait pourquoi pas. Chacun en son fort intérieur. Et puis elle circule chez Dargaud, pour des gens qui ne l'ont pas vue, puis les gens disent mais on n'a aucune idée de quoi ça parle. Vraiment, on se rend. Et il y en a même qui disaient bah, c'est peut-être de la SF, quoi, du coup, parce qu'il y a une sorte de personnage avec un casque étrange, donc ils ont associé ça à Star Wars. Bon. Donc on s'est dit, oh là là. Et là, en fait, d'un seul coup, chacun a dit oui, mais en fait, on n'est pas sûr. Personne n'était sûr de la couverture. Donc mauvais signe. On a tout remis à plat, avec entre autres le graphiste. Philippe Ravon qui a été génial, qui est quelqu'un en qui j'ai une grande confiance, il a dit faut se remettre sur de quoi on parle vraiment et quel est vraiment le cœur de l'histoire. Et le cœur de l'histoire, c'est ce singe. Et donc, on s'est dit, OK, on fait un gros plan du singe et on vise l'émotion. Donc, à la limite, on ne va pas essayer de dire aux gens de quoi parle tout le truc. Il y a bon, le titre, le dieu fauve, et peut-être un indice qu'on n'est pas dans du contemporain et du thriller, OK, mais c'est vrai que c'est flou. Le singe est là, le fait qu'il y ait des barreaux de cage derrière laisse entendre une forme d'humanité, point barre. Mais c'est un pari. Et en même temps, il y avait une telle évidence pour le coup, quand on a vu cette couverture apparaître, qu'on s'est dit, bon ben, ce pari-là, on est prêt à le faire. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand c'est un pari qui est du style, bon ben, on va croiser les doigts pour que cette couve dont personne n'est sûr fonctionne. Là, c'est plutôt, on adore tous cette couve en interne. On tente le coup. Et ce qui est assez drôle, c'est que pour l'instant, plein de gens vont vers le livre grâce à la couverture, mais sans savoir ce qu'il y a dedans. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne. Reste à savoir après si les attentes des lecteurs étaient celles qu'ils ont fantasmées en voyant la couverture. Mais au demeurant, c'est là que jouent des interviews comme celles que vous m'offrez là maintenant, les articles dans la presse et le conseil des libraires, qui est hyper important dans ces cas-là, qui va un peu, quand ils en ont le temps et quand ils en ont envie, qui va orienter les lecteurs. La chance qu'on a pour l'instant, je touche du bois, c'est que les libraires ont compris l'album, sont plutôt fans et justement sont capables de l'accompagner auprès des gens qui se demandent ce que c'est.
Vous avez évoqué le fait que pour qu'un projet arrive chez vous, Fabien Velman, il faut qu'il mûrisse, qu'il arrive. Est-ce que quand même ça vous arrive de faire un peu de marketing de temps en temps et d'essayer de, je dirais pas surfer sur une tendance, mais de se dire bon, il y a un sujet fort, un grand dessinateur, globalement ticket un peu gagnant en ce moment dans la bande dessinée.
Ben, alors oui et non, c'est-à-dire que je suis pas naïf au point de ne jamais penser à comment vendre les albums. Là où j'y pense, c'est que je me dis, il faut toujours qu'il y ait une histoire. Par exemple, moi j'adore l'abstraction en art contemporain, j'adore l'Oulipo en littérature, j'adore l'expérimentation. Mais je ne suis pas capable et je n'ai pas envie de proposer un récit qui serait complètement dans l'abstraction et l'expérimentation parce que j'ai envie qu'il puisse se vendre un peu et qu'il touche un public. Donc dans ce sens-là, j'ai un côté un peu marketeux. Ceci étant dit, qui est vite balayé par des envies qui sont parfois complexes de narration étrange, mais aussi parce que j'ai l'impression que des fois, pour trois expérimentations, semi-expérimentations, un peu populaires quand même, il y en a une qui peut vraiment marquer les gens. Et ben pour cette fois sur trois, ça vaut la peine. J'ai la chance de bosser avec des super dessinateurs et ça, bien entendu que ça joue. Et alors je dis pas que je l'ai choisi en me disant oulala ça c'est vendeur, mais je me dis waouh, moi j'adore ce dessin. Et souvent les gens dont j'adore le dessin sont des gens dont plein de gens aiment le dessin parce que j'ai des goûts qui sont finalement assez classiques ou que c'est des gens qui sont tellement talentueux que tout le monde voit qu'ils sont bons. Donc ça peut jouer. J'ai pas trop de recul sur le côté ticket gagnant de savoir si par exemple de mettre des noms Andrea Evelman ou Roger Evelman, ça peut vraiment faire vendre. C'est compliqué à savoir parce que j'ai l'impression que ma façon d'écrire évolue beaucoup, change beaucoup. Et par exemple, j'ai pas l'impression d'être aussi reconnaissable que le serait peut-être un Zidrou ou un Nuri, dont je trouve... dont je trouve qu'à certains égards... ce serait peut-être compliqué de faire un test vraiment à l'aveugle, mais on pourrait peut-être reconnaître la patte en les lisant. Dans mon cas, à part éventuellement quelqu'un dit c'est très compliqué, on dirait du Velman, éventuellement ça pour rire, mais j'ai l'impression de tenter des choses, peut-être que c'est arrogant de dire ça, j'en sais rien, mais des choses tellement différentes que je ne crois pas qu'elles soient si reconnaissables les unes des autres, donc j'ai du mal à dire vous aimez Velman, vous aimerez le prochain Velman par exemple.
Vous produisez assez peu, oui. Entre guillemets, vous faites entre 2 à 3 albums par an, vous vivez de votre plume évidemment. Est-ce que vous ressentez quand même qu'il faut écrire moins, produire moins, à cause, et j'en ai parlé tout à l'heure, d'une forme de surproduction avec 7000 nouveautés par an ? Est-ce que vous vous dites que même vous, en tant qu'auteur, vous vous dites, la BD évolue, il y a de plus en plus d'offres, comment est-ce que je dois peut-être me concentrer sur peut-être un album par an ? Est-ce que ça vous interrogez un peu sur comment continuer à exister en librairie alors qu'il y a une espèce de masse
Bah oui, bien sûr. Bah on est obligé de se poser ces questions, déjà pour des raisons un peu philosophiques, c'est quoi la bande dessinée. Alors, il y a des débats entre auteurs hein, sur est-ce qu'il y a surproduction ou pas. Il y a des gens qui disent au contraire, ça permet qu'il y ait une productivité folle et des choses qu'on n'aurait jamais vues apparaître sans ça.
À quel prix, ouais.
Mais à quel prix? Alors moi, je suis plutôt de ceux... Mais, bon, je vais tendre le bâton, hein, mais moi, je pense qu'il faudrait produire moins. Mais ce qui veut dire... En fait, produire moins et mieux payer les auteurs. Ce qui veut dire, techniquement parlant, qu'un éditeur éditerait moins d'auteurs et d'autrices. Donc ça, c'est la partie qui fait mal à entendre. Parce que ça veut dire effectivement qu'il y a une sélection plus forte qui est faite. Mais qu'est-ce que j'entends par sélection? Je voudrais que les éditeurs fassent vraiment, jouent leur rôle d'éditeur, à savoir qu'ils repèrent des talents naissants, pas encore complètement mûrs, des futurs Moebius, les payent suffisamment bien pour que ces talents puissent justement passer du temps à avancer, à produire, à trouver leur style, appelons ça comme on veut, sachant que c'est des fois le talent est là, mais la réussite n'est pas là tout de suite, la réussite commerciale qui va leur permettre de gagner leur vie par la suite avec des droits d'auteur. J'en veux pour preuve un exemple que je donne souvent, même s'il est extrait de son contexte, c'est pas la même époque, mais donc je vais le travestir un peu. Mais on prend Uderzo Goscinny. Ils font Oum Papa, pour aller très vite, ça ne marche pas. Ils font Astérix, énorme carton. On pourrait dire, bah oui, forcément, énorme carton, c'est deux génies. Bah, les deux génies ont fait Oum Papa, ça marche pas. Ça marche pas, moi j'ai adoré Oum Papa, mais ça marche pas commercialement. Donc... il faut un temps de patience, faut être un peu dans une petite serre, quoi. Enfin, voilà, il faut pousser pendant... Et pour moi, un éditeur joue ce rôle. À l'inverse, pour moi, le mauvais rôle que peut jouer l'éditeur, c'est de se dire, moi, c'est bien simple, je vais produire 500 BD. Dieu reconnaîtra les siens. Donc, s'il y a un succès commercial parmi ces 500 BD, c'est que les gars étaient bons ou les nanas étaient bonnes là-dessus. Et puis le reste, c'est que ça devait mourir, darwinisme de base. Ben non, parce que pour moi, le Oum Papa en mode darwinisme, les deux auteurs, ça se trouve, ils gagnent plus leur vie, puis ils abandonnent la BD. Donc il faut bien soutenir des gens avec un œil artistique. Et c'est là qu'un éditeur, il a un œil. Moi, je crois beaucoup à la collaboration entre éditeur et auteur. Inversement, ce qui peut se passer de nos jours, si on met de côté cet écosystème qui pourrait être sain pour moi, devrait être un peu plus réduit, mais devrait concerner des jeunes auteurs. Je suis pas en train de dire qu'il faut éditer que des vieux auteurs comme moi, mais éditer des jeunes auteurs, les choisir. Ce que permettraient par contre les réseaux à côté, c'est à ceux qui n'ont pas eu cette chance, peut-être, d'être repérés par des éditeurs qui ont du flair mais qui peuvent avoir des angles morts, c'est de s'auto-produire. Et là, par contre, il y a plein d'autres façons d'apparaître qui me paraissent très saines, qui peuvent tout à fait exister, qui ne sont pas évidentes, hein, soyons clairs. L'auto-édition ou le fait d'apparaître spontanément sur les réseaux n'est pas que simple. Mais ça veut dire qu'il y a une deuxième chance au tirage quand même. On peut passer par des éditeurs, on pourrait ensuite aussi se produire soi-même. Donc une fois cet écosystème évoqué, où je pense qu'effectivement il faudrait produire un peu moins mais mieux payer les auteurs, j'y vois une forme de responsabilité d'auteur, c'est de me dire bon, qu'est-ce qui va justifier d'exister dans ce panel, de ne pas surproduire? Et donc je préfère faire peu. Après il s'avère aussi que je ne suis pas capable, soyons clairs, de faire beaucoup plus, parce que j'ai une forme d'exigence, alors peut-être pas là où il faudrait, peut-être que c'est de l'orgueil mal placé, mais le paradoxe c'est que des fois on peut être très exigeant et quand même se planter. Mais j'ai une exigence sur ce que je veux produire et pouvoir me dire, je vais l'assumer à 100%. Il m'arrive de faire des albums ratés, mais je sais qu'à 100%, j'ai tenté de faire quelque chose. Et puis, l'expérience me montre que ça s'est planté, mais c'est la vie, ça. Par contre, à chacun de ces albums, j'ai vraiment cru à 100% qu'il devait exister.
Vous débutez au début des années 2000, c'est le moment où arrive la fameuse ère des auteurs complets. Oui. Nous, on a connu, on est fans de BD tous les deux, Fabien, on a connu aussi l'âge d'or des scénaristes. On connaît certains grands scénaristes. Je fais partie des fans de Jean Van Damme, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois.
Il y a Christin aussi.
Il y a toute une génération de scénaristes incroyables. On vit dans une ère où c'est compliqué pour les scénaristes. Souvent, ce n'est pas votre cas puisque vous êtes identifié, mais beaucoup ont du mal sur la promotion. Ils ne sont pas invités forcément avec le dessinateur.
C'est vrai.
Les couples sont aussi difficiles puisqu'en fait, il y a aussi une problématique d'argent où finalement, c'est comme si vous avez un gâteau et puis 70% va pour le dessinateur, ce qui est bien normal, et 30% pour le scénariste. Mais des fois, on peut se dire, autant prendre 100% et puis tout faire tout seul. comment vous expliquez un peu cette chute, entre guillemets, des scénaristes classiques traditionnels en bande dessinée, alors qu'il y a toujours besoin de scénaristes et de bons scénaristes?
Alors je sais pas si c'est une chute. Effectivement, le paysage, là je manque de recul, le paysage change beaucoup, il change très vite. Et il va changer d'autant plus vite avec l'arrivée des IA. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont en train de bouger dans tous les sens. Ce qui est sûr, enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, un lecteur, avant tout, il achète quelque chose pour le dessin. Donc actuellement, il y a une prime quand même, il y a toujours un peu eu dans la BD une prime pour le dessin en premier. Il faut que le dessin soit fou, qui est cet effet waouh que vous évoquiez. Et il y a énormément d'excellents dessinateurs, d'excellentes dessinatrices actuellement. Et puis, effectivement, il y a une envie de la part de ces auteurs-autrices, parfois, de raconter leurs propres histoires. Et c'est complètement légitime. Et moi, je tiens à préciser que, par exemple, je suis un fervent supporter du binôme, voire du trinôme, en comptant la coloriste, en bande dessinée, parce que j'adore le côté fructueux que ça représente, de ne pas être dans un microcosme qui serait ma propre tête et je fais tout seul. En revanche, je suis obligé de constater qu'il y a des bandes dessinées qui ont été réussies parce que sans doute c'était des auteurs complets qui ont réussi à penser leur écriture graphique en même temps que leur écriture narrative, et ça donne des chefs-d'œuvre. Donc moi, je pense juste qu'il y a de la place pour les deux. Après, effectivement, la question qui se pose, quoi qu'il en soit, c'est celle des moindres revenus des auteurs. Et comme vous le disiez, ben, dans les faits, c'est normal. Le scénariste va être payé moins à la page parce qu'il va passer moins de temps dessus en moyenne. Après, c'est compliqué de quantifier le temps passé sur une page parce que si on parle d'écrire une page, ça peut prendre une journée. Mais avoir pensé au contenu de cette page pour qu'elle soit intéressante, surprenante, originale, tout ce qu'on veut, ça a pu prendre des années. Donc en fait, la vérité, c'est que c'est très très compliqué à quantifier. Et donc dans les faits, il est complètement normal que, je ne sais pas, sur une somme de 20 000 balles qui serait accordée aux auteurs, à la louche, il y en ait peut-être 3, 4 000, 5 000 pour le scénariste et le reste pour le dessinateur, c'est normal. Mais trouver une économie avec ça est plus compliqué. Mais c'est là que j'en reviens à un sujet qui, moi, me hante encore plus, c'est celui des IA. Parce que, et là, je pense au dessinateur. Même en étant payé plus que le scénariste, le dessinateur n'est pas payé tant que ça. Ça ne fait pas tant que ça pour une année. C'est une avance en plus, donc il va falloir que ses ventes remboursent cette avance avant qu'il ait d'éventuels droits d'auteur supplémentaires. Or, du coup, une partie de ces dessinateurs faisait un peu d'argent avec des illustrations en parallèle. Donc, des affiches par-ci, une illustration dans un magazine par-là. Donc, c'était pas le gros de leur boulot. Je le mets déjà au passé, c'est un peu horrible, mais ça n'est pas le gros de leur boulot, mais c'est ce qui leur permet de gagner leur vie en tant que dessinateur. Les IA vont faire ça pour presque rien. Et quand une asso aura besoin de son affiche de la foire au boudin, alors je dis pas que c'était un truc forcément super glamour à dessiner, mais ça faisait un petit peu d'argent, ça faisait bouillir la marmite. Ça va être fait pour moins de 20 balles par une IA. Et donc, on est en train d'assécher le marigot. Et déjà, c'était difficile, et a fortiori pour les scénaristes. Ça va l'être encore plus, j'en ai peur. Et donc, j'ai peur qu'une partie de cette surproduction qu'on évoquait soit stoppée, mais pas pour les bonnes raisons, soit stoppée par des raisons économiques, parce que plein d'auteurs vont avoir du mal. La question peut se poser de ces scénaristes qui, parfois, ont aussi un deuxième boulot. Alors, c'est pas mon cas, parce que j'ai eu la chance que la série seule fonctionne. Hein. Soyons clairs, c'est à peu près la seule raison. Et puis, la reprise de Spirou, qui m'a aussi quand même bien aidé. Mais pour les scénaristes, la question va se poser aussi pour ceux qui feraient des piges à côté, pour ceux qui feraient ce qu'on appelle faire des ménages hein, dans le métier, c'est-à-dire on fait des petits trucs à côté pour gagner sa vie. Il est possible aussi que des choses soient faites par ChatGPT de l'autre côté. Donc en fait, pour moi, actuellement, la vraie menace vient de là. Ça n'est pas qu'une menace. Je ne suis pas en train de dire que toute technologie est mortifère par essence. Par contre, ce qui est évident, c'est que ça bouleverse complètement la donne et avec une rapidité qui est incroyable. C'est-à-dire que j'entends bien que tous les métiers sont amenés à bouger, et que oui, il n'y a plus de chiffonniers dans les rues comme au 19e siècle, certes, mais les chiffonniers, ils n'ont pas disparu en un an. Là, on est en train de parler de boulot, et je ne parle pas que de l'illustration et du scénario, qui sont en train d'être profondément modifiés en quelques mois, avec des questions éthiques à l'infini, et qui nous demandent quand même un peu un sens de l'équilibre et de surfer là-dessus qui n'est pas simple, et qui va nous demander... Alors, je m'inclus dedans parce que je me pose ces questions, même si à certains égards, ma carrière est derrière moi. Enfin, j'ai encore plein de choses à raconter, mais quelque part, j'ai cette chance d'avoir maintenant une sorte de nom qui est, à défaut d'être une marque à succès, qui est une marque reconnue par les libraires. Mais pour les jeunes auteurs, jeunes autrices, ça me pose un millier de questions. En particulier ceux qui sont en école actuellement, qui apprennent le dessin et qui voient arriver des outils qui vont les surpasser par une sorte de raccourci incroyable sur de l'illustration pure. Bon, reste la narration. Et de toute façon, peut-être le point commun de tout ça, c'est que là où encore on a une carte à jouer en tant qu'humain, un certain temps, je ne saurais pas dire jusqu'à quand, c'est qu'on est des humains qui s'adressent à d'autres humains. Or, les autres humains en face, pour l'instant, vont sentir de manière assez intuitive quand le récit les nourrit ou pas. Je pourrais comparer actuellement les IA à de la fast-food. C'est hyper excitant, c'est pas si cher, mais ça nourrit pas tant que ça. Dieu soit loué pour l'instant. Il y a quelques exemples qui me font un peu peur, parce que je vois, mais en même temps qui me fascinent. Hein. Je vois des illustrations très très belles, très émouvantes qui sortent. Mais une illustration, c'est une chose. Et souvent, il y a eu un DA derrière qui a poussé l'IA à aller dans une direction. Mais par contre, si on parle d'une narration complexe, c'est peut-être pour ça aussi que je vise la complexité. Hein. Je suis en train de faire une course perdue d'avance contre les IA, contre mon... c'était quoi déjà celui qui avait battu Kasparov
Oui,
Deep Blue.
Ouais, c'est ça.
Voilà, je suis en train de courir encore devant Deep Blue en me disant je peux encore tenir. Peut-être pas très longtemps, mais je continue à croire là pour l'instant, à l'instant T, que c'est dans la narration qu'on a une carte à jouer, que ce soit en pure illustration, en illustration narrative, en littérature, etc. Donc ça me rend relativement moins pessimiste pour l'instant.
Dernière question, Fabien. Vous le savez, parce qu'on se suit et on discute ponctuellement ensemble. Je sors le 15 mai à ma bande dessinée, Vertigéo, chez Casterman.
Félicitations d'ailleurs.
Merci. Vous serez obligé de venir à ma dédicace nantaise.
Je n'ai pas le choix.
Mais avant tout, j'aimerais bien avoir un conseil d'un aîné pour un jeune qui commence...
conseil à quel niveau est-ce que c'est... Parce que l'écriture, tu l'as déjà écrit. Vous l'avez, pardon. Je me suis laissé aller un tutoiement malvenu.
Non, c'est quoi, c'est quoi un bon scénario de BD, Fabien Wellman?
De plus en plus, je me dis que c'est un scénario qui surprend et qui crée une émotion. C'est très basique hein, ce que je dis, mais j'ai mis beaucoup de temps à me rappeler de l'émotion. Moi, je visais d'abord la surprise. Je visais d'abord mon alpha et oméga, c'était surprendre, être original, faire quelque chose qu'on n'a jamais vu, ou en tout cas peu vu, le tout pour satisfaire un public qui à la fois aime bien être dans des repères et à la fois adore être surpris. Enfin, moi, c'est ce que je cherche quand je vais au cinéma ou que je lis un bouquin. Et après, j'ai envie que ça m'enrichisse, bien sûr, que ça m'apprenne des choses. Mais je pense quand même que le vrai alpha et oméga, au-delà de cette surprise, c'est l'émotion. Et l'émotion, justement, c'est à la fois le plus simple et le plus basique. Donc, le conseil que je peux donner, mais ça, c'est le conseil que je me donne à moi, c'est de ne pas avoir peur d'être ridicule. Parce que l'émotion vraiment premier degré, je vais vous faire pleurer, je vais vous mettre en colère et tout, ça prend le risque de se planter. Et se planter, dans une émotion, c'est vite un peu ridicule. Il y a eu un moment où, par exemple, je pourrais faire ce reproche rétrospectif aux gens de l'association, au début des années 90, j'adore l'association. Mais il y a un moment où il y avait dans l'association, une partie d'entre elles, en tout cas, un goût pour le second degré et le sarcasme, qui était justement une manière de tenir à distance l'émotion. En mode, on mange pas de ce pain-là, cette espèce de BD franco-belge là, qui essaie une sorte de théâtre à petits bras, etc. Mais moi, du coup, je ne me retrouvais pas dans ce côté. J'aime bien le premier degré. Et quelque part, Van Damme, par exemple, il ose un premier degré. Allez, cache, quoi. Et moi, en fait, j'ai une forme d'admiration quand il est réussi pour ce premier degré-là. Et ben, j'aurais tendance à dire, voilà, n'hésitons pas à tenter le premier degré. Si on est ridicule, soyons ridicules. C'est pour ça que je parlais dans le lieu fauve, il y a une emphase. J'ai pris le risque de l'emphase, mais je suis prêt à l'assumer en me disant, là, j'ai envie de ce récit-là, avec cette emphase-là. Et puis après, j'ai envie de dire... testons des choses. Autre conseil, ça serait de dire pour chaque album, tenter quelque chose. Parce que l'avantage quand on tente quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est que personne ne pourra vous en vouloir de vous être planté puisque de toute façon, on ne l'a jamais fait. Là où je vois un vrai risque, c'est dans une forme de routine. On a réussi un truc, et ben je vais reproduire à l'infini une formule, ce qui, au demeurant, peut être un reproche qu'on fera à quelques grands aînés qui ont très bien saisi un truc et qui sont devenus riches avec ça. Tant mieux pour eux. Mais si on parle d'un point de vue d'expérimentation artistique, je préfère quand même cette petite prise de risque, si on peut se le permettre, de tenter des choses différentes.
Bon, bah j'ai hâte d'avoir votre retour sur Vertigéo, en tout cas, quand ça sortira.
Je n'y manquerai pas.
Un grand merci, Fabien Wellman, d'être venu à la maison pour ce podcast autour du Dieu Fauve. Le Dieu Fauve est évidemment retrouvé en librairie. Allez chez vous. J'espère que vous avez, d'ailleurs, chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez tous et toutes un libraire BD avec qui vous recommande des choses.
Mais oui.
C'est toujours important d'avoir un libraire. Ça peut vraiment nous ouvrir des portes. Et on recommande la lecture du Dieu Fauve, un excellent album, 110 pages, aux éditions d'Argo, avec Fabien Wellman au scénario et Roger
Jorge. voilà. J'essaie de le dire en catalan, j'y arrive pas du tout.
Jorge au dessin. De toute façon, vous trouverez toutes les informations sur l'album sur la page du podcast. Un grand merci Fabien, et puis on se retrouve un de ces quatre pour, je sais pas, un podcast sur Seul.
Allez, volontiers, quand vous voulez.
Un jour, ce serait sympa quand même de traiter votre saga culte.
Quand vous voulez. Merci Lloyd.
Un grand merci Fabien.